Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Vous avez choisi d'écouter Nutri Radio, merci à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous allez pouvoir retrouver des masterclass santé de référence, conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Il y a d'ailleurs une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et puis surtout rester à la pointe de la santé intégrative. Aujourd'hui, dans l'émission, on va parler des robots. Quand les robots défient les lois du vivant. Bonjour Célia Morès.
Bonjour Ambline.
Alors des robots dotés de nerfs synthétiques, est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment on parle beaucoup de robots de plus en plus lorsqu'on regarde la littérature scientifique, mais aussi les articles destinés aux geeks, comme on dit, et les chercheurs ont créé des robots qui défient les lois du vivant, pratiquement. Alors, ce n'est pas des robots vivants, bien évidemment. Il y a des robots, ils ont créé des robots dotés de nerfs synthétiques. C'est-à-dire que ces robots peuvent ressentir la douleur. Alors, ils n'ont pas la conscience de la douleur telle que l'on peut la voir chez l'humain. Mais leur capteur va ressentir la notion de douleur et ça va déclencher une réaction réflexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec cette avancée-là, ça permet de court-circuiter le système nerveux central des robots. Je vous explique. Lorsqu'on est un humain, si on se pique, qu'on marche sur une aiguille, qu'on met le doigt sur un cactus, de manière réflexe, on va retirer notre main sans attendre que l'information monte à notre cerveau, à notre cortex, pour être traitée. C'est ce qu'on appelle un mécanisme réflexe pour éviter de souffrir, et c'est pris en charge notamment par un circuit court qui passe par la moelle épinière. Les robots, il y a quelques années, ils avaient des capteurs qui captaient le toucher, ils pouvaient analyser l'information reçue lorsqu'ils touchaient un objet, etc., etc., mais ça montait à ce qu'on appelle leur processeur central. Alors, leur processeur central, c'est ce qui correspondrait à notre système nerveux central, à notre cerveau, à nous, chez l'humain. Et bien là, ils ont créé des robots grâce à ces nerfs synthétiques qui permettent de court-circuiter ce processeur central et de réagir de manière beaucoup plus rapide, de manière réflexe. Alors, avec quoi ils ont fait ça ? Avec ce qu'ils ont appelé des memory stores. Alors, pour expliquer ce que c'est, sans rentrer dans les détails, parce qu'on rentre dans l'électronique, ce sont des composés électroniques dont la résistance va dépendre de ce qu'il aura arrivé avant. C'est-à-dire que ces composés, ces memory stores, vont garder en quelque sorte en mémoire ce qui a pu arriver avant, les informations, les stimulus auxquels ils ont été soumis, pour leur permettre de mieux réagir et de réagir plus rapidement la fois d'après. L'innovation de ces chercheurs, ça a été qu'avant, les memory stores agissaient de manière binaire, on-off. Et là, ils ont réussi à mettre 16 états différents, ce qui permet aux robots de sentir la douleur de 16 états différents, c'est-à-dire d'une douleur très minime à une douleur très forte, un petit peu comme si nous, en tant qu'humains, on nous demandait d'évaluer notre douleur de 0 à 10.
Donc, ils disent « aïe ».
Presque. Ils disent aïe. Alors, ils se le disent peut-être pas, mais en tous les cas, l'algorithme leur permet de dire aïe, de réagir et d'avoir la bonne réaction au bon moment. C'est-à-dire que si c'est brûlant, ce qu'ils vont toucher, de retirer la main, d'avoir ce type d'action, donc de réagir plus vite. Et on le verra en seconde partie, de les avancer. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce que bien évidemment, le but des chercheurs, ce n'est pas juste de faire ressentir de la douleur au robot. Hein. Ce n'est pas des sadiques. Et le but, ce n'est pas juste de s'amuser avec ce type de concept. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Ils ont fait exactement un petit peu le même type d'étude, sauf que cette fois-ci, les robots ne sont pas dotés totalement de nerfs synthétiques, mais ils sont plutôt dotés d'une peau qu'ils ont appelée neuromorphique, c'est la peau NRE skin, de son petit nom, qui est en fait constitué de quatre couches, un peu comme chez l'homme finalement. Quatre couches, donc la première, l'épiderme, et ensuite quatre couches qui vont pouvoir détecter les différents types de contacts et transmettre l'information au niveau du processeur donc central. En dessous d'un certain seuil, ça arrive au système nerveux central, c'est-à-dire au processeur central du robot, ce qui correspondrait chez nous à notre cerveau. Il n'y a pas de souci. Et donc, il y a des signaux réguliers pour dire que tout va bien, des décharges électriques, tout va bien, tout est OK. Et puis, s'il y a une lésion, alors sachant que le robot, grâce à cette peau-là, il peut capter le type de lésion. Est-ce que c'est une pression particulière? Est-ce que c'est une coupure? Est-ce que c'est un coup de couteau qu'il a reçu, etc. S'il y a ce type d'événement qui se produit, le seuil va changer. Ça va déclencher, cette fois-ci, une réaction rapide sans aller jusqu'à ce processeur central. C'est en cela que c'est vraiment intéressant. Et en plus, avec cette peau-là, l'avantage par rapport aux différents types de robots qu'il y avait avant, c'est qu'avant, il fallait qu'il y ait des capteurs différents pour le toucher, pour la douleur, pour la température. Uh-huh. Tandis que là, finalement, cette peau va détecter plusieurs types de toucher, ce qui rend moins complexe le fait de faire avoir une réaction, on va dire, presque quasi physiologique, une réaction réflexe à ce type de robot. Donc, deux techniques qui sont particulièrement intéressantes parce que ça va permettre de faire agir le robot et de faire réagir le robot de manière beaucoup plus rapide dans certaines situations.
Et ça peut servir à qui, pour qui?
Alors, pour différents types de choses, comme je le disais d'abord, ce n'est pas de leur donner de la douleur, hein, ce n'est pas des sadiques. Mm-hmm. Ça va être la première raison, la durabilité du robot. C'est-à-dire qu'en fait, le robot, confectionner un robot, notamment quand c'est ultra performant, quelque part, ça a un certain coût, ça revient cher. Donc, si le robot apprend lui-même, parce que c'est ce qui va, ça va lui permettre, cette technologie, comme un enfant qui apprend, qu'en touchant une plaque chauffante, eh bien, on se brûle. Le robot va faire le même apprentissage. Donc, s'il apprend lui-même les gestes qui peuvent avoir des conséquences négatives, ça va lui permettre de ne pas les faire et ça va permettre de garder le robot plus efficace plus longtemps et qu'il se détruise moins vite, sachant qu'il va comprendre quelque part, grâce à ses algorithmes, bien évidemment, il va comprendre que cette action-là peut avoir des conséquences négatives et ne plus donc les reproduire. Ça, c'est un premier point, la durabilité. Ça va être de le faire réagir plus réflexe, plus rapide dans certaines situations, notamment quand c'est des situations à risque. Ça va être évidemment bénéfique. Il n'a pas de la conscience de la douleur. Hein. C'est vraiment, vraiment, il devient autonome. Il va ressentir la douleur, mais c'est une sensation algorithmique. Uh-huh. Il va apprendre les dangers, comme on le fait pendant l'enfance. Et ça va être important dans les secteurs automobile, au niveau des secours en cas de catastrophe, mais mieux aussi pour interagir avec l'humain, c'est-à-dire bien de pas faire mal à l'homme en interagissant avec lui, de ne pas non plus, s'il doit manipuler un objet fragile, de ne pas le casser entre ses mains. Et ce qu'il peut y avoir aussi d'intéressant, et moi je trouve que c'est vraiment le plus intéressant, ça serait d'intégrer ce type de technologie dans les prothèses pour que les personnes qui ont besoin de prothèses puissent avoir une réponse un peu plus réflexe et de manière la plus adaptive possible et celle qui ressemblerait la plus à une situation écologique comme quelqu'un qui a tous ses membres et qui n'a pas besoin de prothèses.
On fait une petite pause, Célia, et on revient juste après. On continue bien sûr de parler des robots.
Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Vous êtes toujours sur Nutri Radio, de retour donc avec Célia Morès où on parle des robots. Quand les robots défient les lois du vivant. Alors pourquoi de tels robots ont été créés, Célia?
Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été créés? C'est vraiment pour faire d'abord avancer la recherche. Donc ils sont en train, c'est en cours d'investigation. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont des pistes. À quoi ils vont servir ces nouveaux robots vivants? Ça va être, comme je l'ai dit, de mettre cette technologie au sein d'une prothèse pour rendre plus agréable la vie des personnes qui doivent porter cette prothèse, mais surtout pour mieux interagir avec l'homme. On sait que de plus en plus, il y a des interactions homme-machine, hein, homme-robot. On avait dédié une émission à un robot humanoïde qui officiait, qui était OXO, hein, OXO, le robot humanoïde qui officiait justement dans les centrales nucléaires. Et bien avoir un robot encore plus performant qui capte qu'en faisant telle action, il se met en danger et finalement ne pas faire ce type de comportement pour pouvoir rester le plus longtemps possible fonctionnel, ça va avoir une importance. Le fait de ne pas prendre de risques, parce que ça va être ça aussi. Le fait de réagir de manière beaucoup plus rapide. Et dans certaines situations, on sait qu'il faut réagir de manière réflexe, rapide. On le voit bien en tant qu'humain. C'est ça qui va être important, que si ça doit monter au processeur central, ça prend une certaine latence. Et cette latence, par moment, peut être critique. C'est comme chez nous, lorsqu'on se pique sur un cactus ou qu'on met malencontreusement sa main sur la plaque électrique de notre cuisinière, on retire sa main de manière automatique. Si l'information devait monter à notre système nerveux central, à notre cerveau, pour être traitée, pour qu'on puisse retirer la main, on aurait le temps largement de se brûler et d'être brûlé avec une intensité beaucoup plus importante. Donc, on voit bien l'importance de ces types de recherches. Mais évidemment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut attendre qu'il continue la recherche, qu'il regarde est-ce que ces types de robots vont réellement fonctionner, j'allais dire, dans le monde réel. Parce que pour l'instant, ce sont des recherches. Donc, c'est beau en théorie. Ils ont mis au point, avec cette technologie, ils ont montré des tas de choses intéressantes. Maintenant, quid, question pour moi importante, du coût que cela va avoir de construire de tels robots et de l'adaptabilité de ce robot au monde réel. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Est-ce qu'il va y avoir des bugs? Qu'est-ce qui va se produire réellement?
Vous savez un petit peu combien ça coûte de créer un robot?
Non. Ça dépend en fait des technologies mises au point. Je pense que ça a un certain coût. Ça dépend vraiment. Enfin, tous les robots ont un certain coût, bien sûr. Mais ça va dépendre aussi et surtout peut-être des partenariats. Est-ce qu'ils ont des partenariats avec certaines entreprises qui vont leur permettre de diminuer les coûts? Mais je pense que déjà la recherche coûte très cher. Hein, c'est un petit peu le problème de faire progresser la recherche, ça coûte très cher. Et après, quel serait, une fois que c'est acté, le fait de le mettre de le mettre à destination du public, en fait, avec des réelles fonctions, quel coût cela pourrait avoir dans la vie de tous les jours, justement, ben, pour virer une catastrophe, pour aller chercher des humains dans des conditions un petit peu spéciales et dangereuses pour l'homme. Quel coût ça aurait, justement, ça, je n'ai aucun retour sur ça et je n'ai pas trouvé d'informations dans ce sens. Je pense que tout ce qui est coût et budget sont rarement divulgués.
Oui, bah pour l'instant, tant que c'est en recherche, à mon avis, ils n'ont pas encore sorti de prototype ni quoi que ce soit. Mais on a déjà vu des robots dans les familles qui pètent un plomb carrément. Est-ce qu'on n'a pas peur de ça? Enfin, c'est quoi l'avenir avec les robots?
Alors, normalement, il ne devrait pas péter un plomb, mais comme c'est un programme électronique, ça peut arriver. Il y a eu le cas, il y a quelques années, des voitures. Vous savez qu'il y a eu des voitures qui étaient avec une technologie très, très électronique et qui ont eu un comportement, qui ont causé des accidents. Ouais. Donc, j'allais dire, comme tout système informatique, malheureusement, ça peut s'emballer. Est-ce que c'est un virus? Est-ce qu'il y a eu un... Qu'est-ce qui peut se produire? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. En fait, on tend de plus en plus à communiquer avec ces robots, en avoir besoin, parce que ça peut être important dans les familles en tant qu'aide ménagère. Hein, de plus en plus, on commence à en parler. Il y a d'ailleurs des recherches qui sont en train d'être menées dessus. J'ai vu passer, alors je n'ai pas encore trop regardé, donc je ne veux pas trop en parler, parce que je ne suis pas approfondie la question, mais de robots qui bientôt pourraient être dans un an ou deux ans à disposition des familles pour les aider dans des tas de tâches ménagères. Quand je parle de robots, je ne parle pas du petit robot aspirateur qui glisse sur le sol. Je parle vraiment de robots humanoïdes qui viendraient au sein du foyer comme un membre de la famille. Mais là, il faut encore attendre. Et quelles sont les répercussions? Je pense que pour l'instant, on est tellement au début de ce type pas de ce type de recherche, mais en tous les cas de ce type d'intégration dans la vie réelle et dans la vie du grand public, qu'il faut attendre encore, je pense, de longues années pour voir est-ce qu'il y a un revers de la médaille et comment est-ce que cela va progresser et s'insérer dans la vie de tous les jours.
Et les Français, enfin les gens en général, est-ce qu'ils ont donné leur avis? Est-ce qu'ils sont plutôt pour ou contre adopter un robot à la maison?
Alors là, je n'ai pas eu le vent de ça. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent être totalement, il y a les réfractaires à la technologie, donc eux sont totalement, je pense, contre tout ce qui est technologie, robots et tout ce qui peut aller avec. Mmh. Et il y a ceux qui, au contraire, vont être pour, parce qu'ils vont trouver un moyen de l'utiliser et de s'aider. C'est un petit peu comme avec l'intelligence artificielle, hein. Il y a des gens, oui, qui sont totalement contre cette intelligence artificielle, et d'autres qui se disent, ben, puisque c'est un moyen mis à disposition, pourquoi pas l'utiliser, mais faut-il encore l'utiliser à bon escient? Il ne faut pas que ça remplace l'homme, mais il faut pouvoir l'utiliser, ben, peut-être pour me décharger. C'est sûr que si j'ai un robot qui me fait la vaisselle, j'allais dire, qui me programme mon lave-vaisselle, qui me programme ma machine à laver, qui me fait mon ménage ou qui me fait ce type de tâche, eh ben, ça me permet de dégager du temps, peut-être pour profiter de mes enfants, profiter de ma femme ou profiter de mon mari, profiter de travailler sur d'autres sujets plus intéressants. Ça aussi, ça va dépendre en fait de l'âge de l'individu, hein, parce qu'on n'a pas tous le même âge. Donc, soit on vient d'une ancienne génération où ce n'était pas d'actualité et même pas d'une génération Internet, comme on dit, ou alors on va venir d'une génération comme tous les jeunes actuels, qui eux sont nés avec ça et qui sont probablement moins réfractaires, et tout ce qui peut leur faire gagner du temps et peut-être les faire moins travailler ou en tous les cas utiliser leur temps à bon escient pour faire autre chose, bien probablement qu'ils voudront en profiter. Ça peut servir de garde d'enfants aussi.
Bien sûr.
Il veut dire peut-être éviter. Alors évidemment, le robot, vous l'avez dit, peut s'emballer, peut péter un plomb, mais comme vous avez dit, mais ça peut être aussi d'éviter d'avoir une nourrice ou une babysitter qui peut-être fera du mal à l'enfant ou qui ne sera pas forcément une bonne personne, on ne sait jamais qui on recrute. Donc là encore, il faut voir, il faudrait faire un sondage, peut-être un micro-trottoir avec Nutri Radio, voir comment est-ce que les gens accepteraient ou pas la présence d'un robot chez eux et pour quelles raisons ils l'accepteraient, comment est-ce qu'ils s'en serviraient, qu'est-ce qu'ils attendent d'un robot qui pourrait vivre avec eux de manière comme un membre de la famille.
Et qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que le robot pourrait nous, j'allais dire dominer, mais oui c'est le cas, enfin passer au-dessus de l'humain? Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Alors je ne pense pas. C'est-à-dire, d'accord, que je pense surtout que pour qu'il passe au-dessus de l'humain, c'est probablement qu'il y aurait un humain fou, un savant fou, qui aurait programmé le robot pour avoir des actions malveillantes. Parce que c'est un programme, hein. Donc, avec un programme, on peut faire tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Un hacker peut hacker, on peut mettre un virus, on peut faire avec la technologie, on peut faire n'importe quoi. Donc, je pense que surtout, il faudrait qu'il y ait un humain à la base qui ait décidé de faire un robot fou, plus que le robot qui va, en tous les cas, on n'en est pas là. Hein. Okay. Je pense qu'on n'en est réellement pas là d'avoir un robot qui va nous dominer tel qu'on le voit dans les films de science-fiction.
Exactement.
Je pense qu'il faut quand même, voilà, qu'il y ait la main d'un humain avant quand même.
Merci beaucoup Célia Morès. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera des robots d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt Célia.
À bientôt Ombline.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.